302.
Je peux me permettre, peut-être que vous vouliez intervenir.
Ah non, non, je vais donner juste la parole.
Oui, la quatrième partie du livre, vous n'avez pas insisté sur...
Ah oui, j'ai sauté. Dans celle-là, vous dites que les différentes manières de traiter les poils signalent des différentes esthétiques dominantes.
Oui, c'est ça.
Et c'est donc, moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est que vous insistez sur le fait que les manières de traiter les poils pour une société donnée ont toujours en fait quelque chose à voir avec plein d'autres choses, comme les manières de décorer son intérieur, les manières de toiletter ses animaux de compagnie, les manières de cultiver son jardin, etc., etc. En prenant l'exemple de, je crois que c'est le 17e, 18e siècle, la grande époque des perruques ultra sophistiquées, et bien à cette époque-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on tressait extrêmement finement les crinières des chevaux. Et on faisait des... on avait le jardin à la française et un mobilier, baroque, etc. Comme là plus récemment, vous identifiez à partir des 80-90 une forme de minimalisme qui s'exprime à la fois dans la musique, dans les arts décoratifs et dans les traitements pieds-bas. Et ce qui fait que voilà, on va avoir des variations historiques d'une période à une autre. Et c'est sans doute là-dedans aussi que voilà, la prédominance du lys que vous identifiez serait en fait voilà, plus un changement d'esthétique assez général. Pour ce qui était des questions que j'avais, c'est que je me suis longuement demandé à quel point il fallait prendre au pied de la lettre quelque chose que vous écrivez en introduction. Et donc je pense que la question là va vous intéresser. Donc vous allez comprendre très vite pourquoi moi je me la pose la question. Vous écrivez, parmi les pièges tendus sur le chemin du poil, il n'y a pas que l'unilatéralisme des interprétations, un piège qui guette en définitive beaucoup d'entreprises en sciences humaines et dans la pensée ordinaire. Une tentation commune, offerte par le vocabulaire et la perception immédiate, est de ne considérer la pilosité que d'une partie du corps, la chevelure, la barbe, voire les poils pubiens. Or, ce que l'analyse fait apparaître, c'est que les traitements de ces différentes parties poilues du corps sont en relation structurelle. Et vous citez un autre de Bataille, l'ouvrage de Jean-Marie Le Gall sur la pilosité faciale entre le 15e et le 18e siècle, en disant qu'il ne traite à tort, à votre sens, que d'une partie poilue du corps. Et moi, c'est ce que je vais faire pour ma thèse, je m'intéresse quand même essentiellement à la barbe. Et donc voilà, je me demande à quel point est-ce qu'il faut prendre au pied de la lettre cette préconisation, dans le sens où ce avec quoi je suis d'accord, c'est que oui, il faut rester attentif aux autres poils quand on s'en intéresse à l'un d'entre eux. Et donc j'essaie de le faire, mais je garde la focale sur la barbe, mais évidemment que je pose des questions à mes enquêtés sur la manière dont ils traitent leurs cheveux, s'ils s'épilent ou pas, etc. Mais par contre, si vous suggérez qu'une analyse concentrée sur une partie poilue n'a pas de sens, là je suis pas d'accord, et je voudrais le justifier, en tout cas pour nos sociétés. Parce que je ne crois pas que le vocabulaire et la perception immédiate ne soient que des illusions. Moi, c'est quelque chose que je vais essayer de montrer, en tout cas, dont j'ai vraiment l'intuition très très fortement, c'est qu'il y a une autonomisation relative des parties du corps du fait qu'il y a une division du travail et une segmentation des marchés des biens et services qui ancre dans la réalité cette séparation. Le fait que les cheveux, qu'on ne traite pas de la même manière les cheveux, les poils du corps, les poils pubiens, la barbe, etc., c'est pas. En fait, ça tient au fait. De plus en plus, on a des professionnels, on a des produits, on a des prescripteurs, il y a tout un ensemble de choses qui du coup sont très concrètes et très ancrées dans la réalité sociale et qui viennent du coup ancrer ces séparations, qui viennent en fait traiter de manière autonome. Moi j'ai vraiment un monde de la barbe qui est avec des acteurs économiques, des blogs, des marques de produits, des barbiers, des blogs, tout un ensemble de gens qui construisent vraiment une espèce de culture autour de ça, avec ses propres codes visuels, etc. Et qui font que la barbe est vraiment, d'une certaine manière, autonomisée. Et ce qui, du coup, moi, me fait me dire que je suis... c'est comme ça que je m'autorise à considérer, à prendre cet objet-là comme juste un objet. Parce que je dirais même... Je ne sais pas pourquoi est-ce que je considère qu'on peut même prendre ce monde de la barbe comme un champ.
Mais... Ce qui m'avait amené à dire cela, c'est qu'au XVIIIe siècle, fait un contraste entre ce visage qui était dépourvu de poils, pas de moustache non plus, et puis au contraire une perruque. Et donc cette relation structurelle qui existe entre le poil facial et d'autre part la chevelure. Mais bon, vous avez sans doute raison pour une extension plus large de cela. Mais c'est, si vous voulez, c'était ce rapport entre poil facial et d'autre part chevelure qui m'avait intéressé en me disant qu'il y avait sans doute une relation structurelle entre l'un et l'autre. Si on s'intéresse à la barbe, on s'intéresse moins à sa chevelure. Bref, je ne sais pas si ce qui vaut pour le 18e siècle vaut aussi pour aujourd'hui.
Vous dites, vous répondez vous-même d'ailleurs dans le livre, le rapport entre le, pourquoi le rapport est intéressant, parce que vous dites trop, au fond, trop de poils nous ramène à l'animalité.
Oui.
Donc
oui.
La perruque plus la barbe, ça fait beaucoup.
Ça fait
et
beaucoup.
Le risque, c'est dans votre position nature-culture, c'est qu'on bascule du côté de la nature.
Oui.
Donc là, ça a du sens, c'est intéressant de mettre ensemble de poils. Mais juste, je rebondis sur cette question parce que, en fait, les ouvrages là, qu'on présente aujourd'hui, ils ont pour particularité de mettre tous les poils ensemble comme objet commun de l'analyse. Ce qui est basé sur l'idée de fond biologique, c'est l'excréta.
Oui.
On peut les mettre ensemble parce que ce sont des excréta, des choses qui font tomber, sauf qu'on ne parle pas des ongles, par exemple. Enfin, ils ont quand même la même nature, ils se ressemblent, voilà. Il y a ça. Puis vous avez justifié ça, je ne l'avais pas trouvé dans votre livre, avec le vocabulaire, puisque dans le sens commun, hair en anglais, c'est à la fois le poil et les cheveux, et triclos aussi. Bon. Voilà. Bon, donc, mais d'ailleurs, là, on est à l'extrême, c'est-à-dire que Victor a besoin de justifier pour sa thèse, il va avoir un objet, que donc, voilà, ça se justifie, et que peut-être il trouve suffisamment de choses sur cet objet pour trouver que c'est valide de travailler, d'isoler l'objet. Vous avez les auteurs, les trois auteurs d'aujourd'hui, ont mis ensemble l'ensemble des poils. Et moi, je suis arrivée, parce que c'est ça qui m'intéressait, à penser qu'il faut en mettre quelques-uns, deux par exemple, ensemble, parce qu'ils sont incroyablement signifiants quand ils sont rapprochés. Bon, là, c'était le poil pubien et la barbe masculine. Bon, mais ça peut être autre chose. Il y en a un autre qui fait ça. Alors, c'est Cara. J'arrive jamais à prononcer.
Karadimas.
Voilà, Dimitri Karadimas, quand il essaye, lui, de mettre, il avait 1000%, mais moi, je n'ai pas trouvé ça très convaincant.
Non,
poil et sang, bon, on n'y croit pas trop à son texte, mais bon, on voit qu'il essaye de dire les choses ne prendront leur sens que quand on les rapproche. Hein, poil. Ici, il a choisi le sang, quand même. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a trois postures possibles. Voilà, laissons fleurir sans fleurs. Que sans fleurs s'épanouissent, on sait mille ou sans. Que sans fleurs s'épanouissent. Enfin, vous voyez bien les trois types de postures intellectuelles. Hein.
Et je suis contente, parce que, Christian, je suis ravie que vous soyez là, parce que généralement, je suis assez isolée ici dans ce séminaire, dont je suis ravie de participer.
Elle n'est pas malheureuse,
j'apprends bien. Énormément de choses. Les sociologues nous apprennent enfin, beaucoup de choses, justement, sur des façons différentes. Mais je trouve que vous avez pris une position folle par rapport à votre position, c'est-à-dire que nous, systématiquement, puisque notre perspective, c'est une perspective comparative, on sait bien qu'on parle de nos sociétés pour parler des autres, et on revient sur la nôtre, et du coup on a une vision globale. Donc cette articulation est absolument indispensable dans un sens rigoureux, ce qui n'empêche pas de votre travail à vous de vous focaliser sur la barbe. C'est pas ça, c'est quand les gens prétendent qu'ils vont travailler sur la publicité et qu'ils ne vont pas voir effectivement qu'il y a des articulations différentes. Donc c'est ma manière de comprendre, mais ça ne retire rien de la possibilité pour chacun. Même en tant qu'anthropologue, on va se centrer sur la religion, etc. Mais on peut faire la complexité doit être maintenue de façon systématique. Donc, je pense que ça ne s'oppose pas. C'est
non,
des
non,
positions
c'est
contre. Enfin, c'est la position de base. Je ne sais pas si vous serez d'accord,
oui,
Christian.
Oui.
Mais c'est qu'en anthropologie, on doit avoir effectivement toujours les ensembles. Parce que notre problème, c'est que la référence des sociologues, dans la sociologie des religions, c'est assez affligeant. Bah, donc, les sociologies des religions se fondent uniquement sur les religions du livre. Et nous, on a. Enfin, la majorité des religions auxquelles on a affaire ne sont pas des religions du livre. Et du coup, on a systématiquement, on essaie de dire, non mais c'est un peu plus complexe que ça, et on va articuler avec d'autres éléments. Excusez-moi d'intervenir, je tiens cette position anthropologique qui est des bases disciplinaires.
C'est-à-dire de mettre en relation plusieurs.
Voilà, oui, c'est
de
la même façon que parfois nous on fait moins que vous à tort les catégories sociales, on fait, mais aussi systématiquement. La sociologie.
posture visant à faire dialoguer au moins deux types de poils, entre guillemets, elle est relativement anthropologique de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'elle essaie
oui,
de mettre en relation.
Si tu veux dès que tu mets deux, on ne va pas avoir un a priori. Je veux dire, tu regardes une société, ça peut être, c'est pas seulement deux. Ça va être
oui,
on
oui,
va considérer
sûr,
l'ensemble des façons de considérer
oui,
le poil dans une société et les articles. On ne partira pas de la deux comme le genre.
Oui, non, mais ça peut être trois. Enfin voilà, je trouve que là, ça fonctionne bien sous ces deux-là, je trouve. Ça pourrait être. Mais ça peut être la barbe et la tonsure, par exemple. Enfin, là, je pense cette merveille que vous relatez dans votre livre, à savoir que les moines sont tonsurés, les paysans, voilà, ils restent vers leur poil. Et le frère convert doit être barbu.
Là, ah oui, la barbe du frère
là, on voit bien.
Est tout à fait étonnante parce qu'elle doit être domestiquée et à l'image.
Voilà, et elle doit être domestiquée. C'est-à-dire, il est pas tonsuré, lui, ici.
Non, oui.
Il n'est pas tonsuré. Donc, il est entre le monde social où il y a une barbe voilà, qui vit sa vie, la tonsure et le glabre du moine, et lui, il va porter une barbe, mais une barbe domestiquée. Donc là, ça peut être ça, les jeux entre deux éléments. Voilà. Donc, mais on voit bien différentes postures. Est-ce que vous aviez, là c'était une jolie question, d'autres questions, d'autres remarques pour Christian Bonberger dans vos interrogations et tout ce que nous avons
ce qui venait à l'esprit là aussi. Bon, c'est que, enfin, bon, cette question aussi, je ne mettais pas ma thèse en jeu en la posant là. C'était, si vous répondiez non, je n'allais pas appeler mon directeur pour changer de sujet.
Voilà.
Mais disons qu'en fait, poser cette question permet d'en soulever. Et notamment, je pensais à peut-être quelque chose qui peut apparaître, c'est d'une certaine manière les limites de la méthode comparatiste. En tout cas, de comparer du coup certaines des sociétés que vous évoquez avec les nôtres. Et dans ce côté. Sur la partie. Enfin, parce que. Il y a par exemple, voilà, ce que j'évoquais un peu plus tôt, la codification chez les clercs de la tonsure et parfois donc, millimétrer cette tonsure-là. Il y a aussi un autre exemple que vous prenez, c'est les Borana, où vous mettez un graphique, enfin un espèce de diagramme,
oui.
Avec les enfants, selon qu'ils sont fils de, ou filles de cordonniers, de griots, de nobles, de marabouts, etc. Il y a des codes extrêmement précis sur ce qu'ils doivent se mettre sur les cheveux. Enfin, sur comment est-ce qu'ils doivent couper. Donc, avec certains, avec juste un trou, ou alors au contraire tout rasé sauf un rond, ou alors deux ronds avec un trait au milieu. Bref. Et ce genre en fait de codification là extrêmement précis.
C'est pas les Borana, ça.
Ah, c'est pas les Borana.
Non, c'est.
Mais est-ce que c'est pas dans le chez Corinne Fortier ça?
Les morts de Mauritanie.
C'est ça, c'est chez les morts de Mauritanie dans l'article de Corinne Fortier. Il n'y a pas de photo
non,
là.
Non, c'est dans un article qui avait été écrit par. Passez-moi le bouc.
Le vôtre. Où est-ce qu'il est passé? Il y en a deux, il y a celui.
Oui, il y a le mien.
Voilà.
Oui, pardon.
Oui, ça y est, c'est bon.
Oui, je l'ai, oui.
124. 124, le dessin?
Oui.
124,
d'accord. 124.
Ah oui, elle est merveilleuse, cette
exposition. Ah oui.
Est-ce que, enfin, et du coup, ce qu'en fait, ce que j'en tire de cet exemple-là,
oui,
c'est que... Ah, pardon.
Il n'y a pas la référence. Oui, non, mais c'est au Mali, je ne sais plus exactement où. C'est un. Oui, c'est chez les Diawara du Mali.
Ah, Diawara.
Ah, oui.
Et donc, c'est. Je vais vous laisser notre 10. Je vais retrouver ça.
C'est pas Michel Coquet.
Si, c'est pas possible. Oui.
Alors, ce qui était joli, pendant qu'il cherche, c'est que. C'est l'idée que comme les enfants sont petits, donc tout le monde peut lire facilement l'appartenance, par exemple.
Non, c'est Baduel et Meyassou. Voilà. Excusez-moi.
Oui, donc la question c'était quoi? C'est est-ce qu'on peut mettre ensemble ce... Non.
Là, c'est que ce genre de cas, typiquement, quand on le met à côté de la manière dont les normes et les usages pileux en cours aujourd'hui chez, enfin, chez nous, typiquement ce genre de codification aussi rigoureuse et aussi précise, ne peut pas fonctionner, on ne peut pas avoir un tel langage aussi, aussi clair.
Bah, vous
et
savez...
je me demande si ce n'est pas dû à en fait, des questions de densité, de taille de la société et de, d'intensité, de différence de division du travail. Et que voilà, on peut pas, enfin, et qu'une société, enfin une société à voilà, 70 millions de personnes avec une division du travail aussi fine et aussi aussi étalée, pour mettre tout le monde d'accord sur un langage comme ça, ça on ne peut pas. Et d'où aussi voilà ce parce que s'il y a un langage aussi précis sur la coupe, certaines autres sociétés aussi donnent des usages très précis et très rigoureux de l'articulation des poils entre eux. Et pareil, du coup, dans nos sociétés, enfin, là je suis d'accord avec vous, il y a quand même un peu plus quelque chose qui se présenterait comme une logique optionnelle, au sens où, quand on porte la barbe, mes enquêtés barbus, ils ont plein de coupes différentes, ils n'ont pas tous la même. Et c'est ils ont la barbe, donc ils portent tel type de coupe. Et voilà, en fait, ce genre d'équation, en fait, assez carrée, se retrouve vraiment pas dans des sociétés beaucoup plus forte division du travail. Mais j'ai l'impression, du coup, c'est un élément qui vient donc à la fois justifier l'autonomie, enfin de traiter de manière autonome des différents poils du corps et aller.
Voilà, ça c'est typique d'une division disciplinaire qui se justifie dans les deux cas. C'est pas du tout reproché à la sociologie. Dans les divisions du travail. Mais en fait, la division qui est fondamentale en anthropologie, on est les seuls à pouvoir comprendre parce que la parenté, les systèmes de parenté sont extrêmement complexes. Pas que maman, papa, papa et moi. C'est vraiment, il y a vraiment différentes catégories. Par exemple, ces divisions de catégories de parenté fondent la complexité. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de. Les références sont vraiment. C'est pas qu'il n'y a pas de différence de division du travail. Enfin, je veux dire. Mais disons que cette référence de la parenté est dans l'anthropologie quelque chose de fondamental. Donc, c'est un autre système de référence. Hein.
Cela dit, je pense qu'il y a barbe et barbe, y compris chez nous. Entre la barbe du révolutionnaire de la montre, n'est pas domestiquée d'ailleurs. Et puis d'autre part, ces barbes drues que peuvent porter la moustache du gendarme, etc. Bon, il y a quand même, si vous voulez, des distinctions, et ces distinctions, on peut les apercevoir, et moi je dirais avec beaucoup d'intérêt votre thèse, sur les différents types de barbes. Et je suppose que dans notre société aussi, il y a cette classification qui existe, et bon, que vous pouvez repérer à travers différents types de barbes. Évidemment, 70 millions d'habitants, c'est beaucoup plus difficile à inventorier qu'un village du nord de l'Iran.
Oui, oui.
Et puis, si, tant qu'on n'a pas un équivalent, c'est-à-dire par exemple un travail sur la façon dont on coiffe les petites filles et les petits garçons, je ne sais pas, dans un temps reculé, selon, alors peut-être pas les communautés au sens étroit, mais les strates, aristocrates, bourgeoisie, paysans, etc., on ne peut pas savoir s'il n'y a pas eu des injonctions très codifiées et connues par chaque groupe. Voilà. Là, je ne connais pas d'équivalent sur la coiffure des petites filles. Moi, j'ai beaucoup rêvassé à la façon dont on coiffe aujourd'hui les petites filles, mais je ne sais pas si ça varie beaucoup selon les classes sociales aujourd'hui, c'est pas sûr. Mais ça a peut-être beaucoup varié, parce que je me souviens la comtesse de Ségur, les Anglaises, etc. Je suppose qu'il y a plein de groupes sociaux qui n'avaient pas,
ça. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, enfin, je veux dire, la référence à la différence culturelle qui a posé vraiment problème pour unifier la France. Hein, comme historien, c'est Eugène Weber, un Américain qui travaille sur la différence des terroirs et la difficulté qu'on soit d'unifier en 1870. C'est pas unifié la France.
Oui, en plus.
Du coup, justement, c'est dommage que Jacques Gély ne soit pas là, mais je veux dire, en anthropologie, on a bien noté que, par exemple, ça ne concernait pas les poils, mais le résultat qui s'est préféré, on travaillait dans les différents terroirs,
les coiffes,
les coiffes, le crâne, c'est-à-dire qu'il y avait des massages, il y avait des distinctions de forme de crâne, et ça a duré jusqu'au moins la Première Guerre mondiale. Donc, c'est pas la même chose, mais on peut supposer
a des trous
plus fines.
C'est ça qui est embêtant d'ailleurs. Là, moi, j'ai souffert un peu parce que souvent, on a des trous énormes, historiographiques énormes, qui nous permettraient des comparaisons avec l'Occident. Voilà, parce que moi, j'ai pas lu de travaux sur la façon dont les maîtresses, les anglaises, voilà, ça manque. Il faudrait que tout le monde travaille sur les poils et les cheveux aujourd'hui, quoi. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres choses, Victor, dans vos interrogations sur la méthode, quoi, parce que là, on voit bien, hein, on voit bien les difficultés. Oui, j'étais en train de dire tout à l'heure, parce que c'est pas bien de s'interrompre une phrase, c'est que là, ce que vous montrez dans le... Ah oui, non, je sais plus qui dit, c'est peut-être vous, Corinne Fortier, quand elle montre que les enfants, la tête des enfants était un support signifiant très important, c'est qu'elle dit qu'en plus, on voit d'en haut. Donc c'est formidable, on voit si le gosse appartient à une communauté de marabouts ou de guerriers, parce que bah, tout le monde peut le voir, quoi. C'est extraordinaire. Voilà. On passe peut-être au troisième ouvrage avec Maï, qui a la patience d'attendre jusque-là. Et expliquer aussi, oui, ça sera amusant. Pourquoi ?
Donc, je m'appelle Maï Ledieu et puis je suis sage-femme de métier et j'ai fait donc une thèse de sociologie avec Émilie Kéméki. Donc moi, si j'ai... C'est vrai que ce séminaire a été annulé à cause de la pandémie.
Ah oui, les deux avaient vu la
Et donc je l'attendais avec impatience. C'est pour ça que j'ai saisi l'opportunité de proposer une lecture. Parce que du fait de mon métier, en fait, ouais. Moi j'ai été, puis j'ai divers collègues qui sont ici aussi. C'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a toujours interpellée. D'être placée devant l'évidence, finalement, que la gestion, alors je parlais principalement de la pilosité pubienne, chez les femmes était vraiment différente selon les groupes sociaux. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment une observation dès le début. Alors, au début, moi, dans la fin des années 80, je voyais par exemple des femmes qui avaient le pubis rasé, c'était exclusivement, alors dans la population que je fréquentais, bien sûr. Professionnellement, uniquement des femmes du Maghreb. Ensuite, j'ai vu, moi, dans les années, fin des années 90 et les années 2000, commencer à arriver de façon assez généralisée un rasage intégral du pubis et de la vulve chez des femmes, et principalement, encore une fois, dans la population de mes patientes, de mes clientes, des femmes plutôt jeunes et de classe populaire, qui inversement, au même moment, j'avais des femmes, beaucoup de femmes d'une communauté catholique, qui, elles, avaient une pilosité pubienne mais absolument incontrôlée. Donc voilà, il y avait le côté... et puis de voir aussi cette évolution, finalement, dans le temps, entre les années 80 et les années 2010-2020, de voir finalement toute l'évolution, somme toute, rapide et très très flagrante de ces codes, enfin de ce que moi j'ai analysé après comme étant des signifiants sociaux à ce niveau-là, qui sont plutôt des façons de faire que, bien sûr, que des façons de les montrer au monde, parce que c'est pas comme les cheveux, on les voit moins quand même au quotidien. Par ailleurs, il y a un autre moment où moi j'ai été particulièrement interpellée, c'est lors d'un voyage professionnel où j'étais au Cambodge dans les milieux des années 2010. J'avais à l'époque une coupe à la brosse, et en fait quand je suis arrivée, les collègues sages-femmes avec qui je travaillais étaient éminemment perturbés parce qu'elles me demandaient si j'étais veuve ou si j'étais en période de purification, parce que ça c'est pas normal qu'une femme ait les cheveux courts comme ça. Donc là encore, ça m'a éveillée, disons, au fait de me dire, oui, c'est loin d'être anodin. Donc inutile de vous dire que ce matin, devant ma glace, j'ai quand même eu des grands moments de solitude à me dire, voyons, j'attache mes cheveux, je les attache pas, je les attache pas. Enfin, c'était quand même un peu délicat pour arriver aujourd'hui, après tout ce que j'avais lu dans ce merveilleux ouvrage que j'ai donc découvert, et dont j'ai découvert aussi évidemment la grande complexité de ce sujet, puisque finalement je m'y étais, c'était juste des questionnements personnels, mais j'avais jamais pris finalement le temps de l'approfondir. Alors tout d'abord, pour présenter présenter ce livre. Donc, il s'agit du numéro 6 des cahiers d'anthropologie sociale, qui est donc une collection qui publie, presque j'ai compris, principalement des travaux menés au sein du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Et ce cahier-là, donc, qui a été édité en 2010, il résulte de la journée d'études intitulée « Pilosité et sang, un imaginaire de la vitalité », une journée d'études qui s'est tenue donc en juin 2007 au Collège de France. Ce cahier a été rédigé par l'anthropologue dont on a déjà parlé, Dimitri Karadimas, qui est décédé en 2017. Alors, j'ai beaucoup hésité et puis j'ai fait le choix de d'abord présenter très succinctement les 10 contributions avec leur auteur ou autrice, et puis vraiment très très en survolant vraiment le thème au moins. Ensuite je vais revenir un petit peu au contenu et aussi tenter de répondre un peu également, comme Victor l'a fait, à la réponse posée dans le titre du séminaire du jour, le poil est-il genré, même si pour cet ouvrage c'est tellement limitant qu'en fait j'ai évidemment élargi. Bien. Alors, donc les contributeurs et contributrices sont au nombre de 10. Le premier texte, qui est intitulé « Poil, sang et vitalité, une problématique », est donc de Dimitri Karadimas, qui était donc anthropologue au LAS. Et il passe dans cette contribution en revue les différentes publications qui ont ouvert des débats divers autour de la problématique du poil en anthropologie. Et il propose donc dans cet article d'associer l'analyse des comportements et des valeurs accordées au poil et au sang, en avançant donc l'idée qu'ils seraient sinon synonymes, du moins complémentaires. Le second texte, hein, donc, qui s'appelle « Des poils et des hommes, entre réalité biologique et imaginaire de genre eurocentré », est donc un article de Priscille Touraille, donc, dont on a parlé précédemment. Donc Priscille Touraille, qui est donc chercheur associé au département Homme-Nature-Société du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Dans ce texte, donc, c'est le même contenu, hein, de ce qu'on a évoqué auparavant, donc, elle critique le manque de questionnement des chercheurs de tout poil, si je puis me permettre, sur la présentation de la pilosité faciale et corporelle dans la littérature, tant scientifique que de vulgarisation, comme étant, comme on l'a dit tout à l'heure, une caractéristique de la biologie masculine qui serait valable pour l'espèce entière. Donc, elle formule, dans conclusion, tout au long de son article, elle formule l'hypothèse que finalement, ce manque de questionnement et ce manque de questionnement se mettrait au service de la protection des idéologies de genre et de race qui seraient spécifiques aux sociétés européennes. Je vais y revenir après. Donc le troisième texte, qui s'appelle « Aménorrhée, l'anugo et cheveux, représentation et pratique autour de la vitalité dans l'anorexie mentale », est un texte de Karine Tina, qui est professeure-chercheure du Centre d'études sociologiques et du programme interdisciplinaire d'études sur la femme au Collegio de Mexico. Dans ce texte, elle explore la nature des liens possibles entre le sang, la pilosité et les cheveux dans l'imaginaire des jeunes filles qui souffrent d'anorexie mentale. Elle travaille dans ce texte les représentations d'un côté et les pratiques corporelles de ces jeunes filles en les analysant en fonction du stade de du trouble qu'elles traversent. Le texte suivant s'appelle « Bête de concours, du paraître à l'être ». Il est l'œuvre de Anne-Marie Brisbard, qui est anthropologue, membre du laboratoire d'anthropologie sociale. Et elle, à partir d'enquêtes de terrain qui sont menées lors de transhumance en Cévennes et en Provence, et d'un autre terrain, au Salon international de l'agriculture de Paris, elle va questionner les représentations qui sous-tendent les pratiques appliquées, enfin, toutes les pratiques finalement de soins des pelages des bêtes par les éleveurs. Donc c'est très divers, hein. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu j'ai dressé ça, parce que autant dans les aires culturelles que dans les objets en eux-mêmes, c'est très varié. Alors le cinquième texte, qui s'appelle « Le cube des fluides, du poil au sang en Sicile », est écrit par Salvatore Donofrio, qui est anthropologue et professeur à l'université de Palerme, et j'ai cru comprendre aussi membre du laboratoire d'anthropologie sociale. Ce texte concerne la culture traditionnelle sicilienne et explique, alors entre autres bien sûr, que le poil il est identifié au sexe masculin et au sexe féminin, pardon, et le sang plutôt au sexe masculin. Il développe dans ce texte la manière dont cette double équivalence module l'opposition universelle masculin-féminin. Bien évidemment, le fait de résumer à ça le texte, et j'en suis même gênée tellement c'est basique. Le sixième texte s'appelle « La moustache de la distinction, vitalité, pilosité et sang dans les représentations gitanes de la hiérarchie sociale ». Ce texte donc est de Nathalie Manric, qui est anthropologue à l'UHESS à Paris, et elle montre entre autres que dans la société gitane du sud de l'Espagne, les différences de statut entre individus et catégories sont révélées à tous, à la société entière, à travers l'abondance de la pilosité. Donc, en particulier la moustache, mais pas uniquement. Un septième texte qui s'appelle « La barbe ou la tresse, des cheveux et des poils, marqueurs de la différence sexuée, dans la société mort de Mauritanie », et donc de Corinne Fortier, qui est anthropologue au LAS. Elle expose que dans la société mort de Mauritanie, les poils et les cheveux jouent le rôle de marqueur de l'identité, qu'il s'agisse d'une identité sexuelle, identité sociale, identité liée aux âges de la vie ou caractère protecteur. Donc on a évoqué déjà un petit peu ces travaux précédents. Une huitième contribution s'appelle « La vie du poil, la construction du genre au cours du cycle de vie idéal des Mongols ». Il est écrit par Gaëlle Lacaze, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Strasbourg, et membre de l'équipe, était membre de l'équipe Le sentiment du corps dans les cultures et leur nature. Elle expose toujours, entre autres, que le lien dans la société mongole, le lien entre le sang, la force vitale et la pilosité, est très importante dans ces peuples, qui sont des pasteurs nomades d'Asie centrale, où se situe sa recherche. Et elle dit que la pilosité constitue la marque visible de la capacité de reproduction du corps des femmes, mais aussi de la qualité ou la quantité de force vitale du corps, et que ce lien-là relève d'un système complexe de croyances chamaniques de cette société. Donc je vais essayer de revenir dans toutes ces implications. Le neuvième texte est Le sens du poil chez les Tikuna en Amazonie. Il est de Jean-Pierre Goulard, qui est ethnologue et membre de l'équipe de recherche en ethnologie amérindienne de l'Université de Nanterre. Cette recherche donc se situe, comme elle l'indique le titre, chez les Tikuna, qui est un groupe indigène d'Amazonie, et montre, toujours entre autres choses, comment la gestion du poil, souvent associée au sang, fait sens à chaque passage de classe d'âge, de la naissance à l'âge adulte. La dixième et dernière contribution donc, s'appelle « Relations, rites et cheveux chez les Aranda » et donc celle de Marika Moiseyev, ethnologue au LAS et également psychiatre. Il doit y avoir d'autres choses à dire, mais je ne laisse
pas. Surtout pas ethnopsychiatre.
Non, non, mais j'ai bien... Ah, ça, je ne serais pas permis, parce que je suis trop près. Je suis... Cet article, donc, a pour objet la circulation des ceintures de cheveux au sein de la communauté Aranda d'Australie, qui sont utilisées comme moyen privilégié pour tisser des liens entre individus occupant des positions rituelles et matrimoniales complémentaires. J'espère. Bien. Donc, une fois ce tour d'horizon posé, donc je voulais revenir déjà à l'introduction. Donc, l'introduction dans laquelle, donc, prenant pour référence des représentations actuelles des corps humains dans la publicité principalement, Dimitri Karadnidas pose donc en préalable que le poil est une partie corporelle qui s'impose à tout humain, comme le sang menstruel s'impose à toute femme. Il parle du principe que ces éléments sont un rappel de la nature et qui est souvent perçu pour nous comme dérangeant. Une différence majeure entre l'humain et l'animal étant l'importance de la couverture par la pilosité, eh bien les seules zones pileuses de l'être humain sont de facto référencées comme bestiales. Donc la question qui en découle, il la pose ainsi, la maîtrise du poil et du sang menstruel serait-elle un moyen d'échapper à une condition imposée par la nature? Donc les contributions de l'ouvrage qui suivent vont explorer le lien entre poil et sang dans les imaginaires et les pratiques humaines des différentes sociétés explorées. Alors, je voulais commencer par revenir au titre du séminaire du jour, donc le poil est-il genré, et à partir des textes et de la lecture de cet ouvrage, donc une première réponse m'est apparue, mais je vais évidemment être très très redondante par rapport à ce qui a été dit précédemment. C'est qu'il m'est apparu évidemment nettement que la gestion de la pilosité participe à la catégorisation des êtres dans les mondes sociaux qui ont été étudiés, mais cela vraiment très au-delà de la seule catégorisation de genre. C'est vraiment quelque chose qui a déjà été très, très développé tout à l'heure. Donc, d'après les textes, il m'est apparu qu'elle peut donc marquer la séparation entre humain et non-humain. Elle marque la différence des sexes par des règles différenciées de la maîtrise de la pilosité chez les garçons et les filles, puis chez les hommes et les femmes. Et elle peut être signifiante des statuts sociaux, et souvent même, mais aussi signifiante des évolutions des statuts générationnels et des évolutions des stades de la vie. Et elle porte également une très forte symbolique et s'accorde toujours à la manière de se représenter le corps dans la société étudiée. Par ailleurs, les poils comme le sang sont tous les deux synonymes d'identité et parfois, à ce titre, utilisés comme des supports matériels de médiation relationnelle, ce qui a surtout été montré donc dans le texte de Marika. Alors, je vais revenir sur le premier item que j'avais retenu, qui est l'utilisation de la gestion de la pilosité en catégorisation humain-animal. Donc c'est surtout dans la contribution de Anne-Marie Brisbar, donc le texte qui s'intitule « Bête de contour, du paraître à l'être », qui est développé la place du poil dans cette catégorisation. Alors elle s'est intéressée, comme je disais en introduction, au thème du traitement des pelages des bestiaux et aux représentations donc, qui les sous-tendent, en travaillant sur les terrains, comme je disais, du pastoralisme transhumain dans les Cévennes et en Provence et au Salon de l'agriculture. Et elle questionne les représentations des éleveurs vis-à-vis des pelages de leurs bêtes en montrant que ces représentations, contrairement à ce qu'on peut penser dans un premier temps comme ça, ne se réfèrent pas du tout uniquement à des considérations esthétiques, mais qu'elles sont également étroitement reliées aux représentations des humeurs corporelles, donc le sang, le sperme, le lait, et des muscles, en fonction des catégorisations des bêtes, en particulier pour les bêtes de concours qu'elle a vues au salon de l'agriculture. Alors, elle revient pour qu'il y ait du pastoralisme, en disant pour certains troupeaux, elle montre très bien que l'apprêtement du pelage des bêtes cumule des fonctions diverses, fonctions rituelles déjà, où elle évoque le fait de gérer d'une certaine façon le pelage des bêtes avant le départ en transhumance, est une sorte d'invocation pré-chrétienne pour que le soleil brille durant le trajet de la transhumance. Elle y ajoute donc une fonction esthétique qui va être importante pour le spectacle populaire de ce moment finalement qui marque dans l'année le départ, où elle associe également, donc autant le pelage des troupeaux est mis en avant, autant l'apprêtement esthétique des éleveurs est également très importante, dans un parallèle qu'elle évoque. Et qu'il y a également une fonction technique à cet apprêtement, à cette gestion du pelage, par exemple avec, pour certaines bêtes, la conservation d'une longue mèche de laine, qui a une fonction vraiment très prosaïque de pouvoir attraper la bête, qui sont en particulier les bêtes meneuses. Le traitement différencié du pelage, il y a aussi vraiment toute une partie qui est intéressante, je trouve, sur le fait de montrer le degré de domestication par justement la maîtrise et la finesse de l'apprêtement du pelage de l'animal. Dans les troupeaux, certaines bêtes qui sont considérées comme plus proches de l'humain parce qu'elles ont été élevées en proximité plus grande avec l'humain, avec des agneaux par exemple élevés au biberon, à qui on a donné un nom, et qui auront une gestion du pelage très différente en fonction, avec un statut dans le troupeau qui est très différent. Ils sont par exemple des meneurs et eux ne seront jamais menés à l'abattoir. Dans les concours nationaux, donc là elle développe vraiment beaucoup, beaucoup ça, le traitement très complexe du pelage qui vise à exalter le paraître de la bête, mais surtout c'est très différencié en fonction de ce qu'on veut mettre en valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de préparer son animal de concours, mais évidemment en fonction de ce qu'on veut mettre en avant, que ce soit la mamelle, avec en particulier la mise en avant de la contenance de la mamelle, eh bien, il y aura une façon de raser, de tresser le pelage. Si on veut mettre en avant la viande, ça sera une autre façon, avec une façon vraiment de pouvoir, en fonction des perspectives de visualisation de l'animal, ça va être des parties valorisées de la viande de boucherie plus tard. Ah oui, et pour certaines autres bêtes pour lesquelles on valorise plutôt un aspect qui se veut sauvage et proche de la nature, eh bien, la marque très importante qui doit être donnée quand même de la domestication, là, va être plus sur le fait d'agir sur d'autres phanères qui sont les cornes qu'on va enlever. Donc voilà, et déjà donc, se dessine au travers de son texte le lien entre le poil, les humeurs corporelles et évidemment d'autres fanères comme là les cornes, qui est finalement, je crois pas qu'il y ait aucun texte dans lequel on parle également des ongles, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, j'ai trouvé très peu, vraiment très peu.
Ouais, je n'ai pas trouvé.
Non. Hein. Alors, pour revenir maintenant donc sur l'utilisation la gestion de la pilosité pour catégoriser les sexes, eh bien, on peut dire que les pratiques autour de la pilosité étudiées en anthropologie sociale marquent souvent une différenciation entre filles-garçons et hommes-femmes dans cette gestion. Priscille Touraille, donc, dans sa démonstration, dont on a déjà abondamment parlé, pointe la persistance donc des représentations relatives à la pilosité en anthropologie biologique. Donc la pilosité faciale et corporelle est et reste considérée comme un caractère sexuel secondaire attribué au masculin de façon universelle, bien qu'on ait décrit une grande diversité d'expressions de ce caractère dans les populations humaines. Donc, comme je le disais tout à l'heure, elle dénonce cet état de la recherche comme étant un support finalement d'une hégémonie genrée et racialisée qui place l'homme européen poilu en modèle de référence de l'homme, en général, humain, d'Homo sapiens, pour lequel, écrit-elle, la pire chose ne serait pas d'être comparé à un animal, mais pour le coup d'être confondu avec une femme. Voilà, c'est vraiment son... Alors, les pratiques genrées autour du traitement de la pilosité qui concernent les cheveux sont vraiment nombreuses et diverses dans les différents textes qui reviennent dans cet ouvrage, avec des choses qui sont des démarches que j'ai trouvées assez récurrentes, comme par exemple des âges différents qui vont être pour appliqués aux filles et aux garçons pour les premières coupes de cheveux, par exemple. Alors, il y a des populations mongoles, d'autres populations. Pareil, des aspects différents des coiffures, donc qui représentent, on va y revenir, une sorte d'alphabet social, hein, on a vu aussi, donc principalement décrit par Claude Fortier, avec donc ces manières de faire avec les chevelures qui ne sont, bien entendu, jamais limitées à une simple esthétique. Ça, c'est pareil, j'enfonce une porte ouverte. Ces pratiques sont toujours étroitement liées à des aspects symboliques et à des représentations du corps et à des marqueurs sociaux. Donc, voilà, hein, à chaque fois, j'essayais d'isoler finalement un élément, mais je me suis rendu compte que, évidemment, à aucun moment il n'est possible de prendre un élément et d'en faire une structure, malheureusement. Mais ça m'a paru vraiment extrêmement complexe. Alors maintenant, une catégorisation des statuts sociaux et générationnels. Donc il y a là encore plusieurs textes qui donnent des exemples de ces marquages sociaux et ou générationnels par des actions sur la chevelure ou la pilosité faciale, principalement. Donc, bien sûr, qui décrit que les coiffures faites aux garçons dans la société maure est un alphabet qui indique son groupe social d'appartenance, comme on disait. Mais là encore, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est juste pour les garçons. Donc c'est à la fois genré et à la fois groupe social, parce que chez les filles, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne dans ce qu'elle décrit. C'est que chez les filles, dans cette même société, les coiffures sont gérées différemment, c'est-à-dire que ça correspond non pas au statut social, mais au stade, aux étapes de la féminité, et ça transcende, là, pour le coup, le statut social. Donc, là encore, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on pourrait décrire dans un premier temps. Nathalie Malric explique, elle, donc, chez les Gitans, le système très complexe qui met en relation la maîtrise de la pilosité et la sexualité. Donc, moustache ou pas au masculin, cheveux longs ou courts au féminin, et elle met ça en parallèle avec les échanges de fluides dans un système qui se complète en fait en interrelation par l'ajout d'un système relationnel de dons. De donneurs et de receveurs entre les membres de la communauté qui codent également le droit ou pas de porter la pilosité faciale. Donc là encore, donc il y a un signifiant donc de hiérarchie sociale, un signifiant relationnel, le fait d'arborer donc une pilosité façonnée de telle ou telle façon qui va montrer à la fois une étape de vie mais donc aussi un statut. Et enfin, c'est voilà, il y a plein d'étages, plein de couches, disons, d'interprétation qui complexifient et qui rendent extrêmement subtil et raffiné en fait le code capillaire. Alors, pour évoquer maintenant le plan symbolique qui est quand même très très présent et qui est un fil conducteur, un fil rouge, disons, dans la majorité des contributions, c'est Dimitri Karandimas qui ouvre d'ailleurs l'ouvrage en faisant ce focus sur les différentes théories d'explication de la symbolique. Alors là, il a lui qui choisit cette symbolique qui lie le poil et la sexualité et la volonté, donc il évoque cette volonté qui a été de longue date de trouver un universel. Donc on l'a à nouveau déjà évoqué tout à l'heure. Alors lui, il évoque les théories qui sont succédées, en particulier en mettant deux en parallèle, donc la longue chevelure féminine qui exprimerait une sexualité sans contrainte pour Nietzsche, alors que cette longue chevelure symboliserait plutôt la liberté face à l'ordre social pour Alfie. Est-ce qu'on peut opposer les deux? Moi, c'est une des choses qui m'a étonnée, c'est qu'il semblait opposer les deux, alors que je ne vois pas en quoi ça s'oppose, ça peut être complémentaire. Il m'a semblé. Bon. Alors, la recherche par rapport à la symbolique, vraiment, le travail de Karine Tina sur les jeunes filles anorexiques, moi, j'ai trouvé incroyablement riche dans les références symboliques. Bien sûr, puisqu'elle pose en prérequis interprétatif de son terrain auprès de ces jeunes femmes, donc c'est des jeunes femmes entre 15 et 24 ans, anorexiques, et ça se situe au Mexique, son terrain. Donc, elle n'a étudié que des filles qui sont anorexiques. Donc, elle pose comme prérequis interprétatif la symbolique. Cheveux longs, sexualité sans contrainte. Cheveux attachés, sexualité contrôlée. Donc elle l'affiche comme cadre au départ. Et à partir de là, elle établit une articulation entre le sang menstruel, la pilosité et les cheveux. Alors la pilosité, principalement, là, elle s'axe sur ce qu'on appelle le lanugo, qui est ce duvet, qui est un duvet, donc... périnatalité, on connaît bien parce que c'est le duvet qui recouvre les nouveau-nés de façon plus ou moins importante en fonction des individus, des groupes ethniques et qui est, on voit bien dans beaucoup de travaux anthropologiques, et qui est quelque chose qui est très très signifiant et très étudié et qui est le siège de beaucoup d'attention dans beaucoup de rituels d'accueil et d'intégration des nouveau-nés. Oui, c'est ça. Donc elle est voilà. Donc sang menstruel, pilosité et cheveux. Et cheveux, donc elle les associe selon trois liens. C'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment vraiment limpide. Donc un premier lien qui serait le contrôle du corps. Donc avec l'épilation et l'aménorrhée. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est en fonction, ça évolue. C'est-à-dire que manipulation, les pratiques corporelles et la façon de voir l'écoulement du sang menstruel chez ces jeunes femmes évoluent en plus en fonction du degré de leur atteinte. Alors, l'épilation, donc, qui serait un contrôle absolu du corps, faire disparaître ce poil. Une aménorrhée qui serait valoriser un premier temps pour des raisons de refus du passage de la puberté, mais aussi pour une relation genrée de balance sexuelle, et qui ensuite cette aménorrhée, quand elle s'arrête, et bien alors qu'elle était valorisée en tant qu'aménorrhée dans une première phase de la maladie, le réécoulement sanguin est lui valorisé comme un gain, un retour et une prise de pouvoir finalement genrée par rapport aux hommes qui, eux, n'ont pas cet écoulement sanguin et pas ce pouvoir reproductif. Donc, alors ensuite, donc, le premier, donc, le contrôle du corps. Deuxièmement, la volonté d'inverser la valence différentielle des sexes, comme on disait, hein, aménorrhée, reprise des menstrues. Et pareil, elle fait ce même travail avec l'observation des cheveux attachés et détachés selon les phases de la maladie. Donc cheveux attachés très contraints dans une première phase de contrôle absolu du corps et dans une deuxième phase de la maladie, des cheveux qui se détachent là encore en relation avec la symbolique qu'elle pose comme cadre interprétatif du début et bien entendu le rapport à la sexualité qui en découle toujours dans cette même symbolique. Elle le termine hein, en mettant un point pivot pour elle dans cette interprétation qui est le moment de la puberté, hein, avec donc ce moment où autour duquel tout tourne au niveau symbolique et qui guiderait selon elle donc vraiment les pratiques concrètes sur le corps de ces jeunes femmes. Dernier point que j'ai trouvé important à aborder parce qu'il a été rare finalement dans l'ensemble des contributions, c'est l'utilisation du cheveu en tant qu'objet matériel. Et donc là, c'est la contribution exclusive de Marika Ousseliev. Donc, avec l'utilisation des cheveux en tant qu'objet matériel, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé original donc dans la société aborigène. Avec ici, comme je disais en introduction, des individus qui se construisent un réseau relationnel en échangeant des ceintures tissées à partir de cheveux, alors à partir de ses propres cheveux dans certaines circonstances, ou des ceintures tissées à partir de cheveux qui font partie des dons, avec en particulier les cheveux de la belle-mère dans un système complexe relationnel entre un gendre et une belle-mère, mais qui une belle-mère attribuée à la naissance. Voilà, je ne vais pas m'amuser à essayer de le détailler parce que c'est très complexe. Alors, donc, les individus donc, se construisent leur réseau de relations en s'échangeant, alors pas comme ça, hein, bien sûr, extrêmement codifié, en s'échangeant des cheveux tissés. Et par ailleurs, bien, comme dans chacune des recherches offertes à la lecture dans cet ouvrage, eh bien, Marika développe l'extraordinaire finesse des nombreuses utilisations des cheveux dans la société, avec des utilisations matérielles reliées à des symboliques qui participent à la construction des identités individuelles et des identités collectives. Et l'importance de l'origine du cheveu, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, l'importance de l'origine du cheveu, c'est-à-dire pourquoi le cheveu finalement a peut être utilisé comme tel, parce que c'est un élément du corps qui est détachable, contrairement aux autres, et que c'est donc une des bases de réflexion sur la force symbolique hein, de l'objet cheveux. Voilà. Donc avec aussi, bien entendu, une mise en parallèle avec le sang, qui est aussi un objet du corps, mais bien sûr, qui n'est pas aussi utilisable matériellement, en tout cas qui n'a pas les mêmes possibilités de manipulation, de circulation. Donc là encore, c'est tellement basique ce que je peux en dire parce que ce raffinement et cette intrication de niveaux d'interprétation de l'utilisation du cheveu et de la codification de la pilosité en parallèle est vraiment très très riche. Donc au total, donc me redire, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a émerveillée, moi, j'étais vraiment, vraiment... Alors, certains textes, j'ai dû les prendre plusieurs fois, puis je ne suis pas vraiment sûre d'avoir tout compris, parce que, justement, il y a un niveau de complexité, en fait, qui, je pense, aussi nécessiterait, pour vraiment tout saisir, de vraiment connaître l'ontologie exacte à l'intérieur des sociétés étudiées, je pense. Enfin, mais c'est tellement riche en illustrations, et surtout, moi, qui suis un peu... voilà, qui démarre dans le... débute dans le domaine du poil et du sang, mais ça m'a vraiment montré à quel point... Ben, oui, le fait d'essayer de faire une interprétation sur un niveau de lecture était mais vraiment totalement à côté de la plaque parce que l'utilisation des fanères, du sang, c'est une intrication de symbolique, de codes sociaux, esthétiques, mais aussi des façons de se représenter, ouais, de ce qui est des ontologies, de se représenter la vie, le corps. Donc voilà, comme je disais, ça révèle l'intrication de tous les niveaux de lecture nécessaires et de la complexité des représentations multiples qui sous-tendent finalement les pratiques humaines par rapport au poil, au sang. Évidemment, je suis obligée d'être sceptique par rapport à votre cadre du début et à l'envie finalement et la tentation de mettre une structure de lecture, finalement, des gestions de la pilosité un petit peu universelle, parce que là, moi, je me suis rendu compte que, que c'était vraiment, à mon sens, presque une inertie anthropologique.
J'ai déjà passé le bouquin. Merci beaucoup, Marie. Voilà. Donc, la parole est au public, et du coup... Ouais, juste quelques mots très rapides de ce que je retiens du coup, Mike, de cette synthèse, cette analyse en même temps de cet ouvrage, c'est que du coup, tu me dis si j'ai bien compris hein, ce que tu dis, c'est que du coup, le poil n'est pas nécessairement un marquage de genre, mais c'est aussi un marquage social, identitaire, générationnel. Donc tu dresses comme ça les différentes significations que peuvent porter ce poil. Et aussi un marquage par rapport à l'animal. Voilà. Et du coup, j'ai deux questions, deux interrogations en t'écoutant. C'est qu'est-ce que ça ne marque pas aussi un rapprochement en même temps, ce poil, et une différenciation au végétal? Et je pense à quelque chose, c'est que les cheveux et les poils, c'est ce qui pousse et qu'on peut couper sans douleur et qui ne procure pas de douleur. Et j'ai eu l'occasion d'échanger de nombreuses fois avec Bruno Mouillat, qui est botaniste, qui travaille sur la sensibilité justement des arbres. Et on en est arrivé à cette conclusion. Enfin, en tout cas, il explique comme ça la comparaison entre le fait de couper un arbre et de couper de l'herbe ne cause pas de douleur comme nous quand on nous coupe les cheveux et quand on souffle. Ouais. Donc du coup, tout ça pour vous dire que est-ce que finalement c'est pas un lien aussi, non pas seulement à l'animal mais au végétal, surtout, et d'ailleurs surtout le poil. Et d'ailleurs aussi un lien entre la bête et le végétal, c'est ce qui relie aussi peut-être, c'est le poil et donc pour nous le cheveu, et le poil en général. Et la deuxième question, qui est peut-être plus liée au séminaire, c'est dans quelle mesure aussi le fait de politiser ou de socialiser d'abord le poil et de le politiser ensuite, dans quelle mesure ça participe à une politique plus globale en fait, et qu'est-ce qu'on peut en dire de ça en fait? C'est-à-dire qu'on socialise, on politise un élément qui nous rattache à la nature, un élément du vivant, de nous-mêmes, aussi de notre santé. Et comment on pourrait rattacher ça à une biopolitique peut-être plus globale? Est-ce que c'est une question déjà qui semble pertinente? Enfin, ça m'est venu vraiment en vous écoutant. Et qu'est-ce qu'on peut en dire en fait?
La différence végétale humaine, c'est pas universel. Chez les aborigènes, il y a des humains qui sont responsables à la fois de l'environnement et au sein de l'environnement. Les autres ont passé vraiment ce qu'on appelle nous les végétaux et les animaux. Par contre, donc, ta question, c'était... malgré tout, il y a quelque chose qui est intéressant, parce que pour les aborigènes, à la fin, je cite la différence entre ce qui se passe avec les cheveux des vivants qui servent à créer des liens, qui font des identités personnelles, et chez les aborigènes, contrairement à ce qu'on pense, on pense que les Occidentaux sont le centre, le champion, disons, de la singularité individuelle. Pas du tout, on est très collectiviste, et vraiment avec les aborigènes qui sont censés être les plus primitifs des primitifs, ils ont, on est, chacun est responsable de la constitution de son propre réseau relationnel qui va fonder son identité personnelle. Et ça, c'est donc du coup, quand ils choisissent de donner des cheveux à certaines personnes qui vont venir, qui vont faire, qui vont avoir des échanges, chacun va pouvoir avoir accès à des rites qui sont possédés par chacun, par le faire. C'est très très vivant, justement. Et ce qui est intéressant par rapport à cette constitution d'identité personnelle, c'est que le cheveu est censé effectivement provenir de l'intérieur, donc est associé à l'intimité très personnelle des personnes, et du coup on ne peut pas les donner à n'importe qui. Maintenant c'est vendu éventuellement dans des objets, des artefacts particuliers, mais ça ne l'était pas, c'est très très sensible que ce soit, ça vient de l'intimité, ça s'extériorise, c'est une intimité qui s'extériorise et qu'on peut échanger. Par contre les cheveux des morts, et là je suis franchement avec vous pour vous faire plaisir, sont associés à autre chose, c'est-à-dire que vraiment, les cheveux qui sortent sont associés à l'esprit qui incarne l'individu, et ils sont le terme pour la tresse qui est faite avec les cheveux de mort. Ça s'appelle le kuru urkna. Le kuru, ça vient de kuruna qui est l'esprit, et urkna, c'est à la fois la sève des arbres, et c'est en même temps les sanis, enfin, tous les liquides d'un cadavre qui s'écoulent, donc quelque chose qui est très très lié, voilà. Et donc le cheveu du mort va servir, comme dans beaucoup beaucoup de sociétés, on ne pense jamais, en dehors des enfants tout petits ou des personnes très âgées, que la mort est naturelle, mais par contre c'est lié à quelque chose qui a été, il y a une intention de quelqu'un, faire le diagnostic, on doit venger le mort. Et donc cette ceinture de cheveux, elle est toujours donnée soit au fils du mort en particulier, c'est la ceinture masculine, soit au frère, au jeune frère du mort, et c'est lui qui va organiser les expéditions de vengeance. Donc toute cette idée que la sève va permettre de s'écouler, le sang va permettre de s'écouler, donc c'est le lien, le seul lien que j'ai fait avec il y a bien cette préférence au végétal qui n'a pas, mais la distinction n'a pas vraiment de pertinence, si tu veux, c'est possible, simplement que la sève, c'est l'idée, c'est l'équivalent du sang chez les...
D'accord. Je soulignais juste le rapport avec le végétal, parce qu'on parlait que des bêtes depuis le début, et pas du végétal, c'est tout. Bon,
Est-ce que le mot ontologico-centré existe? Parce que finalement, c'est un questionnement qui est vraiment purement dans notre ontologie. Je sais pas, parce que c'est vrai, j'ai eu la même impression en disant oui, mais c'est vrai, nous, c'est vraiment notre façon de dissocier le végétal du reste, alors que c'est très. C'est juste nous, quoi.
Je pense que c'est juste, mais j'ai énormément mal avec le terme ontologique. Oui, ontological turn.
Juste des scolaires, mais bon, j'ai tort.
Simplement, je trouve que c'est un terme très abstrait. J'ai besoin d'avoir des références concrètes, mais c'est pas faux.
Non, c'est ce qui m'est venu.
Tu as raison.
En tout cas,
peut-être juste un petit point pour. C'est pas une réponse à toi, mais c'est par rapport à Dimitri, qui était un collègue très intéressant, très dynamique, très gentil, et qui est décédé à 50 ans. C'est très choqué de ce décès. Donc c'était un spécialiste des Miranya, des Amérindiens d'Amazonie. Et c'est effectivement la problématique aujourd'hui, parce qu'il a travaillé en particulier sur des rites d'initiation masculine là. Donc c'est la problématique du genre qui était très marquée pour lui. Et donc une chose qui n'est pas dans le livre là, mais auquel vous pouvez avoir accès, parce qu'il y a un lien entre menstruation, on le sent, et les poils pubiens, enfin, je pense que vous connaissez peut-être ce texte, il reprend le texte, un texte merveilleux, un petit texte qui est accessible dans un tout petit livre d'Yvonne Verdier, qui comme d'habitude écrit remarquablement, et qui a travaillé sur le petit chapeau. Oui. Alors là, quelqu'un qui était éblouissant dans sa façon de voir dans les représentations de la nature et des comment dire, le corps
sans le nommer.
Voilà, c'est ça.
Et il a été aussi publié dans Corps et Affects, peut-être.
Oui, c'est vrai. Peut-être voilà, c'est mental, dans le Corps et Affects.
Voilà.
Et donc, il y a ce lien avec le fait que la petite, enfin, le chaperon rouge, la truc échevelée, si je veux dire, ou le capuchon clitoridien renverrait, donc, un travail qu'il a fait ensuite sur des. C'est très intéressant parce que, une fois qu'on est très choqué des associations qu'il fait, mais d'un autre côté, pour d'autres aussi choses, quand il le dit, c'est très difficile de ne pas voir. Et donc pour lui, effectivement, le petit chaperon rouge, le loup qui est dans le lit, c'est aussi la grand-mère qui, elle, est ménopausée et qui va initier la fille au fait de voir la queue du loup qui est. Je vous laisse le découvrir. Donc il y a tout un truc qui est très très genré, qui est malgré tout très intéressant. Et c'est intéressant de le mettre en regard du texte original d'Yvonne Verdier sur le chemin des aiguilles et le chemin des épingles, voilà, qui concerne la sexualité, mais aussi, elle aussi fait le lien avec ce qu'on appelle le petit chaperon rouge, avec la menstruation et le fait que cette menstruation est une façon de transmettre de mère en fille la fonction reproductrice. Excusez-moi.
Bon, en tout cas, là, l'évocation du texte de Tara Dimas et l'enthousiasme de Maï vous disent effectivement le caractère passionnant de l'objet, parce que là, moi, j'ai été prise aussi, hein, clairement. J'étais déjà prise par le voile, parce que je trouve que c'est un objet merveilleux, mais le poil est un objet enthousiasmant. C'est-à-dire, on sent, quand je disais, il n'y a pas d'équivalent, par exemple, sur la chevelure des petites filles à l'illustration qu'on vous a montrée, qu'on a fait circuler, où on voit dessiner sur le crâne des petits enfants, je ne sais plus où, ça y est, j'ai encore oublié, les Nia, ou les Na, on sent qu'il y a énormément de travaux à faire sur cet objet, soit singulier, comme la barbe, à mon avis, après, il n'y aura plus grand-chose à faire sur la barbe, j'espère pour Victor, mais on sent qu'il y a énormément de choses à faire, et selon les contextes sociaux, historiques. Voilà. Donc voilà, je pense aussi que c'est, vous l'avez signifié presque physiquement d'ailleurs, l'enthousiasme que vous avez, le fait que ça va dans tous les sens, ces analyses, et c'est particulièrement vrai chez Tara Dimas, on se sent qu'il se fait plaisir fondamentalement. Alors il y a des trucs où on dit, ah oui là, bingo, là il y a un truc, bon, il a touché quelque chose. Et puis à un autre moment, vous dites, non, enfin ça colle pas là, oula, far-fetched. Bon. Mais on sent que l'objet est évocateur effectivement de plein de choses, de plein de dimensions sociales, hein. Nature, culture, genre, pas genre. Moi j'en ai choisi un, je l'ai mis dans le titre parce que je pensais travailler pour ma paroisse, hein, tout simplement. Mais nature, culture, insider, outsider, bon, je le dis mal, mais c'est ça que vous dites, dedans ou dehors de la communauté, je ne sais plus, enfin, genre, le nombre de dimensions est sont très de classe. Tout simplement, puisque je vous disais selon les groupes sociaux, génération, les âges de la vie, bon, etc. Donc on voit bien que c'est un objet, un signifiant extraordinairement riche. Que les signifiants viennent, vous l'avez dit très bien, viennent buter les uns sur les autres parfois et prennent toute la place, comme l'histoire des Mexicaines qui ne se rasent pas parce qu'il faut montrer par rapport aux Indiennes plus glabres qu'elles sont au-dessus. Bon. Voilà, il y a des signifiants qui sont réduits à néant parce que ça vient lutter contre un autre signifiant plus puissant à ce moment-là. Donc on sent qu'il y a énormément de choses à faire encore. Et vous voyez, tout à l'heure on disait, il n'y a pas d'une histoire du poil dans un pays de manière très très... Enfin, en fait, vous avez dit après, vous pensez, on a rattrapé le coup. Mais voilà, qui prennent de manière chronologique en disant, tiens, c'est curieux, au 18e, point de barbe, et puis le 19e, Marx, Lénine, pas Mao. voilà, tout le monde est barbu, Freud et tous ses disciples, sauf Jung, parce que c'est un disciple dissident, enfin, etc. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses à faire en réduisant la focale, par exemple, sur l'histoire ou sur des communautés qui seraient moins exotiques. Parce qu'on a énormément d'exemples dans tous ces trois livres sur des communautés lointaines, enfin, sur des sociétés lointaines. Moi, je trouvais, moi qui ne suis pas anthropologue, j'avais envie qu'on me fasse le coup sur les tresses des petites filles ou les Anglaises dans en Occident. Quoi. Ouais.
Alors oui, je voulais juste laisser la place un peu au public parce que des incompréhensions, des questions, des... Oui, allez-y.
Ça a été évoqué dans le courage, mais rapidement, vous faites un lien entre le traitement de son propre corps, le traitement de la nature et le traitement des bêtes, en parlant des tresses, des chevaux, et puis du jardin à la française, etc. Et ça rappelle un peu l'idée de l'action qui a été proposée par Audrey Court avec une typologie. En fait, pour comparer la façon dont il existe des liens entre la façon dont on se comporte avec autrui, avec soi, la façon dont on traite la nature et la façon dont on traite les animaux. Et du coup, je me disais que s'il n'était pas possible de faire une sorte des règles universelles du poil, peut-être qu'il est possible de trouver, en tout cas dans certains cas, des liens entre tous ces animaux.
Oui. En effet, si vous voulez, il y a une homologie entre la manière dont nous traitons nos poils et la manière dont nous traitons nos pelouses et puis nos animaux. Alors, c'est évident, par exemple, quand vous voyez comment les jeunes gens les plus violents traitent leurs animaux et traitent leurs chevelures. Ils ont le cheveu ras et d'autre part également, ils adoptent des chiens qui ont le poil ras également, ou bien ils tondent ce poil pour qu'il disparaisse. Donc il y a là, si vous voulez, une homologie. Alors c'est une homologie aussi que j'avais faite entre les styles architecturaux et puis d'autre part la manière de traiter nos poils. Donc quand vous prenez la période baroque par exemple, il est évident que vous avez entre les perruques extrêmement extravagantes de la fin du XVIIIe et le style baroque qui peut se développer en Allemagne, par exemple, avec ce luxe de détails et de boursouflures, vous avez là quelque chose, si vous voulez, qui est équivalent. Cela dit, faire ces rapprochements, il y a des cas où on arrive à les faire, et en effet, je crois que c'est vous qui parliez de la fin du XXe siècle, où il y avait le lys qui se développait, en effet, une esthétique minimale et minimaliste, et puis d'autre part, des cheveux, si vous voulez, qui étaient, au moins pour les hommes, extrêmement simples dans leur confection. Mais est-ce qu'on peut à chaque fois faire ce genre de rapprochement? Je n'en suis pas sûr. Alors, il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans ce que vous disiez tout à l'heure sur le végétal. Parce que vous m'y faisiez penser. Quand Afsane Najmabadi parle de ses relations entre hommes et d'autre part jeunes gens, le thème qui revient, c'est celui de Miyorgiya, c'est-à-dire de plantes d'amour qu'il y a sur la lèvre des adolescents. Et donc, d'ailleurs, vous savez, en persan, pour dire moustache, on dit sibyl. Mais donc ici veut dire aussi 30. Donc. Veut dire 30 également. Et donc pour un jeune homme qui n'a pas tout à fait sa moustache, on dira bistono. Mmh. Il est 29. Mmh. Mmh. Non, il n'est pas 30. Et donc il y a véritablement ce culte de végétal, si vous voulez, de la plante d'amour sur la lèvre supérieure des jeunes gens. Qui contraste avec la moustache, précisément, donc qui va être dru et qui va manifester, et qui est animal à ce moment-là. Puisque mou, c'est un terme qui désigne à la fois l'animal et donc le poil animal et le poil, humain. Donc, il y a là, si vous voulez, quelque chose qui me frappait. Alors, dans ce que vous disiez tout à l'heure, une fois j'avais exposé mes recherches sur le poil, devant un auditoire de sage-femme et puis de professeur de médecine aussi. Il y avait un professeur de médecine qui m'avait dit « Oh là là, vous savez ce que j'ai entendu ? » Une dame qui m'a dit « Oh, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de m'épiler. »
Tout est simple.
Ah oui ?
C'est même un gars dans la salle d'accouchement, très souvent, combien de fois les femmes qui arrivent des contractions, puis vous me dites oh, c'est terrible, j'ai pas eu le temps d'aller chez l'esthéticienne. Donc ça c'est un grand classique, hein, mon institution de soins.
Contrôle. Autre, oui, Anise.
J'ai une question sur l'évolution des normes. Donc on a vu que c'est assez difficile de dégager des grandes règles comme ça, une espèce d'invariant anthropologique du poil, mais l'idée qu'il y a toujours souvent un rapport à la norme est quand même très fort. Et je voulais savoir ce qu'il en est du ici et maintenant, en fait. J'ai l'impression qu'on a tendance à affirmer que les normes sont plus souples, qu'on n'a pas de règles strictes sur ce qu'on doit faire de nos cheveux, de nos poils, etc., que les tendances fortes n'ont pas des normes aussi strictes que dans d'autres espaces, que ce soit temporel ou géographique. Mais je voudrais savoir en fait ce qu'on en fait aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de rémanence? Est-ce que par rapport à cette norme-là, et je pense, donc, moi mon objet principal c'est le monde vétéran et le monde militaire, et le monde militaire.
Oui.
Le cheveu et le poil dans le monde militaire, c'est l'objet de discours et de règles plus ou moins tacites d'ailleurs, qui sont quand même assez fortes. Hein. On pense à la tonte des conscrits comme rite de passage et d'intégration, mais aussi il y a tout un tas de discours indigènes qui sont assez intéressants sur le fait qu'on reconnaît le grade de quelqu'un à la longueur du cheveu, puisqu'il y a des règles édictées, mais plus on est gradé, plus on a le droit de s'écarter légèrement de la règle. Donc, un petit peu plus long sur le dessus, il reste court sur les côtés. Enfin, on a le droit de porter une barbe, mais pas de la laisser pousser pendant qu'on est en service. Donc il faut revenir avec une barbe déjà poussée, etc. Il y a aussi la question de la justification technique de l'absence de barbe en disant les masques à gaz, c'est dans le texte sur les poilus. Le masque à gaz avec une barbe n'est pas aussi efficace. En fait, il faut être rasé pour que le masque à gaz fasse son effet, qui est aujourd'hui encore un truc dont on parle. Du coup, toutes ces normes-là, donc dans le monde militaire, mais aussi chez les femmes, et on fait souvent cette blague en disant qu'une femme qui vit une rupture, elle va se couper les cheveux, elle va chez le coiffeur tout de suite avant d'aller chez un psy. Quoi. Enfin, c'est, ou alors, quand on deviendrait mère, on aurait tendance à se couper les cheveux, et quand on deviendrait une personne âgée, on passerait à du plus court encore. Enfin, il y a ces espèces de normes qui sont quand même là, dont on parle, qui sont un peu flottantes, un peu moins strictes. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on travaille ces objets-là? Qu'est-ce que ça dit de nous? Quelle est la tendance générale? Parce que c'est une observation très sauvage, en fait.
Oui, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est vrai qu'on va plus vers une logique optionnelle. Néanmoins, il y a des règles qui restent. Le long pour les jeunes filles et le court pour les garçons. C'est quelque chose, si vous voulez, qui me semble transcender la variété des cas et des logiques plus personnelles. Alors en même temps, côté militaire, ce qui me semble intéressant, c'est le cas des légionnaires. Parce que eux, ils ont le droit d'avoir et de porter tout le temps une barbe, y compris une barbe qui n'est pas... Bref.
Si ils défient, ils ont même l'obligation.
Ils ont même l'obligation, oui. Je ne sais pas ce que vous pensez la barbe des légionnaires et de cette autorisation très particulière qui a été apportée aux légionnaires.
C'est même plus qu'une autorisation, d'après ce qu'il y a. Presque une norme.
Je crois que c'est pas tous les légionnaires qui sont juste.
Oui, les sapeurs de la Légion étrangère avec le tablier et la hache.
Oui.
Qui ne marchent pas au même pas d'ailleurs. Oui. Qui ne marchent pas au même pas. Ce sont les seuls à avoir. Ils n'ont pas la même musique en fait.
Ils n'ont pas les mêmes chants.
Ils marchent lentement. Ils ont le droit d'avoir une barbe et de prendre leur temps. C'est drôle.
Alors là-dedans, il y a une réponse. C'est-à-dire, je trouve que la fin sur l'esthétique, n'est pas très claire. J'ai vraiment pas compris ce qu'il veut dire. Mais il pense qu'il y a aujourd'hui une logique optionnelle beaucoup plus forte qu'auparavant, et que cette épilation généralisée, c'est une manière, parce qu'il y en a qui s'épilent pas aussi, donc c'est une manière de choisir son poil. Quoi. Bon.
Et pour la norme, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a l'optionnel, mais il y a aussi des normes qui sont pas, elles ne doivent pas dans nos sociétés, puisqu'on est censé laisser la liberté aux individus, mais elles sont présentes.
Elles sont
moi, j'ai les cheveux longs, 64 ans, et j'ai des collègues là,
c'est hors norme.
Qui m'ont dit, non mais des collègues, oui. Marie m'ont dit, mais quand est-ce que tu vas couper les cheveux,
Marie?
Donc il y a vraiment, je pense que c'est très, très intéressant. Il y a aussi la problématique, moi je crois beaucoup à cette idée de différenciation réciproque, d'une génération de parliers par rapport à l'Iran, où les femmes en 79, qui n'avaient pas forcément porté loi, mais qui l'ont fait pour dénoter leur voilà, elles étaient heureuses d'avoir cette révolution dont on attendait beaucoup. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut le mettre en parallèle donc, en Égypte, au moment de Nasser, les femmes se sont volontairement, ça n'a pas été imposé, dévoilé, et je me souviens d'un film que je montrais aux États-Unis quand j'enseignais les problématiques de genre, elles étaient affolées, ces femmes de cette génération-là, de voir que leurs filles se revoilaient comme un moyen de se différencier, pas par rapport à leur mère, mais par rapport aux colonisateurs. Enfin, je veux dire, par rapport, donc je crois qu'effectivement, et de la même façon, qu'effectivement en Turquie, comme dans, en Algérie, vraiment le dévoilement a été d'une violence, pas de la part du colonisateur en Turquie, mais c'est vrai que par les kémalistes, imposant le dévoilement aux femmes de façon publique, comme si on les déshabillait, ils ont quasiment une dénudation. Et donc voilà, donc je crois qu'il y a aussi les problématiques générationnelles, tout ce qui peut. Et donc quand vous dites dénudation, moi j'ai été contactée, comme j'ai écrit cet article, par le journaliste qui travaille sur le poids, et il y a. Comme d'habitude, l'épilation est devenue une norme. Je pense qu'elle était, il me semble, mais ça les sociologues me contrediront, que ça a été à un moment quelque chose plutôt des classes moyennes supérieures et supérieures. Et à l'heure actuelle, c'est dans les classes des intellectuels féministes, etc., la revendication, au contraire, de porter le poids et de ne pas s'épiler. Donc les deux sont toujours, c'est toujours plus complexe, parce que c'est toujours, il y a toujours cette, une fois qu'on a imposé quelque chose de très. Voilà, il y a une norme, et il y a des éléments, une résistance, et c'est toujours qu'au présent, et c'est intéressant parce que c'est tout à fait significatif. Ça forme un tout, c'est pour ça que je parlais de complexité qui se recompose. Et donc, c'est vrai que l'optionnel est dit, mais l'optionnel masque, et je pense que c'est très intéressant ce que vous dites, le côté d'une norme qui est implicite et très, d'autant plus forte, parce que quand elle est dite, on peut la contester directement, mais quand elle n'est pas dite, il faut que ce soit vraiment, il faut quasiment être un militant. Enfin, et d'ailleurs, les gens dans les réseaux sociaux se constituent en militants.
Et c'est incorporé comme norme, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment, peut-être la phase du contrôle à l'autocontrôle, il y a peut-être quelque chose, il y a certainement ça, de se dire qu'aujourd'hui, on ne nous dit pas, il faut qu'une femme se coupe les cheveux quand elle a un enfant, il faut qu'une femme se coupe les cheveux, etc. On ne nous dit pas. C'est pas marqué dans le texte militaire, les officiers ont droit à 3 mm de plus sur le dessus de la tête que les militaires du rang. C'est pas marqué dans les textes. Et pourtant, on le sait, on le sent, au point où je regardais la semaine dernière une rediffusion de Saturday Night Live, l'émission de sketch aux États-Unis, de sketch humoristique. Il y a un sketch qui est apparu dans ma liste où c'est des femmes qui plaisantent entre elles. Elles accueillent une nouvelle femme dans la banlieue cossue américaine où elles vivent. Et la question est, quand est-ce que tu vas passer à la coupe de cheveux de maman? Et donc, c'est devenu culturellement une blague de dire, on passe à un moment donné à cette coupe de cheveux de maman. Et effectivement, c'est une coupe de cheveux qu'on voit beaucoup dans les banlieues américaines. Elle est très, on voit laquelle, quoi. C'est très clair. Et pourtant, il n'y a pas de règle. C'est pas dans la constitution américaine où deux enfants et un minivan, il faut une coupe de cheveux bouffante sur le dessus, court derrière. Enfin,
Là, vous avez dit, pardon, je reprends la parole deux secondes, vous avez dit une chose importante quand vous dites c'est sur le corps, quoi, c'est du corps. Bon. Et donc la norme, le dialogue entre normes explicites, implicites, mais complètement intégrées par les individus, est beaucoup plus puissant. C'est pour ça qu'à mon avis, on est fasciné par cet objet d'ailleurs, le poids, parce qu'on est vraiment dans la matérialité, très proche de chacun, très proche de l'identité, parce que c'est du corps, encore sur le corps en plus, hein, c'est pas la tresse des morts, etc. Et donc là, voilà, on a un truc, en termes d'habitus, la description de l'habitus, c'est un exemple merveilleux, puisque chacun va porter ça de manière particulièrement implicite, inconsciente, évidente. Et il y a une chose qui est frappante dans les différents textes que j'ai lus, c'est le rôle que joue la honte, la pudeur, des choses très fortes, la honte, la pudeur, les mêmes choses que disait Marika sur être dévoilée, comme entraînant une espèce de honte terrible. On l'entend dans ce livre-là, en tout cas, puisqu'il regarde, hein, les sources sont très diverses, mais il interroge les gens, les femmes, et qui disent leur sentiment de honte, alors soit d'être épilé, soit de ne pas l'être. De temps en temps, c'est le contraire aussi, hein, parce que là, je demande vraiment à savoir quels sont les groupes sociaux qui s'épilent aujourd'hui, bon,
Enfin, il n'y a pas d'analyse, c'est difficile d'ailleurs, il faudrait vraiment faire une enquête. Vous voyez, il y a encore un truc à faire, une enquête sociologique, aller dans différents groupes sociaux et dire est-ce que vous pratiquez ce qu'il y a dans ma régulière. Parce que par contre, dans les revues, il y a une progression, c'est clair. Donc, la honte, la pudeur, là, c'est-à-dire des réactions physiques, somatiques très fortes, sont associées à ce rapport au poil ou à la chevelure. Donc, c'est vraiment très, très puissant. C'est aussi ça qui nous fascine. On sent bien que c'est proche du corps, c'est proche de l'inconscient, c'est proche de la spontanéité physique, quoi. Ces histoires de portée par portée.
Et puis, c'est la seule partie du corps sur laquelle on puisse agir.
Oui. On peut quand même agir.
Enfin, les ongles aussi, les fanères aussi, mais...
Ouais. Sans que ce soit définitif, donc en plus, c'est en permanence questionné.
Voilà. Oui, c'est parce qu'on peut revenir. Ouais. Ouais.
Revenir.
Je vais vous choquer, mais je trouve que cette histoire de la pudeur, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vu écrit. Pourtant, bon, alors ce qui est écrit, c'est... Françoise Héritier n'est pas la seule, mais elle a rappelé avec force que, effectivement, dans les représentations, ce qui représente le bas peut être le haut et inversement. Et que, effectivement, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est effectivement, du coup, la barbe, elle est associée dans une perspective structuraliste que j'ai avec les poils pubiens.
Oui, et la
chevelure. Ce qu'on montre, la visibilité, ou les femmes qui ont des cheveux, mais qui n'ont pas des cheveux échevelés, ça aussi représente leur présence pubienne. Donc, je veux dire, c'est même quelque chose qui n'est pas inconscient, c'est un processus cognitif très malin qui, évidemment, après est associé aux différentes représentations qui font système dans un ensemble culturel.
Oui, je pars de là, moi. Je partir de ça. La chevelure représente bien sûr le poil.
Donc, on a, effectivement, quand on évoque l'émasculation des hommes sur les champs de bataille, etc., un exemple donné par le fait de raser, soit de raser les femmes après la Deuxième Guerre mondiale, soit tout ça, effectivement, fait partie d'un système.
Je t'enverrai mon papier, parce que c'est exactement là-dedans que je veux aller, hein, évidemment. C'est-à-dire que c'est des niveaux de signifiants différents, c'est-à-dire le haut représentant le bas, et le bas représentant quoi, après bon, parce que le point de vue bien, qu'est-ce que ça représente? On n'est pas obligé de dire que c'est du sexe. Mais il y a des chances que ce soit quand même ça. Quand même. Voilà. Bon, bref. Bon, mais je veux pas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Et puis, Géraldine, suggérer qu'on vous présentiez. Ah oui, je fais appel aux gens qui sont dans leur lit et malades comme Emma, et les autres qui se cachent. C'est le moment de poser des questions, là, parce qu'on ne dirait pas qu'on vous voit. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous voit.
Ah oui, on l'a dépassé déjà.
Est-ce qu'il y a une dernière question quand même? Deuxième remarque. Ah oui, on ne s'ennuie jamais sur le poil. Je ne sais pas si Stéphane serait d'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque? Oui, allez-y.
J'aurais une question. C'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup vu dans votre ouvrage et que j'aimerais poser aux autres et comme Norme a posé aussi, c'est le rapport entre la pilosité masculine et la virilité. La vérité, c'est un terme que je ne vois pas souvent dans votre livre. Et je demande à vous aussi, du point de vue de la barbe, parce que donc je fais une étude sur le. Je suis en master. Le rapport entre la pilosité masculine et la virilité. Et il manque quand même des statistiques sur ce point-là pour savoir si les hommes vont. Se faire épiler, quelle zone, pour quelle raison, donc c'est cette cité que je vais devoir faire, aussi pour barber, etc. Savoir si peut aussi se dégager, ce que je vais essayer de faire, une norme entre la pilosité, que ce soit faciale, capillaire, et la virilité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, réponse. Alors d'abord, il y a des réponses là-dedans, il y a quelques statistiques, il n'y en a pas beaucoup, mais sur le nombre de femmes qui se font épiler, etc. Il n'y a pas énormément de choses, mais tout le travail reste à faire. Christian, est-ce que
Non, mais enfin, il me semble que je parle de pilosité et virilité dans ce livre, mais peut-être que vous avez des... évidemment, il faudrait voir par groupe social, alors là, je me tourne vers les sociologues.
Peut-être qu'il l'a fait, mais si c'est vrai que c'est...
Bon, alors du coup, oui, ça c'est le...
c'est le plan pour ma thèse. Ce que je l'ai fait en sociologie du genre, en fait, au moment du départ. Donc l'angle masculinité et barbe, c'est l'angle principal de ma thèse. Je préfère utiliser le terme, enfin, les choix, les deux termes, masculinité, virilité, qu'est-ce qu'on en fait. Et j'ai plutôt tendance à, moi, à utiliser le terme de masculinité et de le décliner au pluriel en disant qu'il y en a plusieurs formes et que, en fait, elles se. Enfin, un des objectifs de la thèse, c'est de dessiner un espace des masculinités barbues qui soit. Il y ait des formes de barbe différentes qui correspondent à des groupes sociaux masculins différents, avec chacun donc des propriétés sociales spécifiques en matière de classe, race, orientation sexuelle, âge peut-être, on verra, et des raisons différentes de porter la barbe et de la porter de cette manière et pas d'une autre, etc. Après, le lien entre pilosité faciale et virilité, pour ce qui est de l'Occident, il est très clair, il est très net, parce que autant on peut, enfin, pour décrire ce que les hommes sont et font, je vais utiliser le terme masculinité. Après, pour parler de, en fait, sur cette distinction-là, je la dois à Audrey Vorel, qui viendra plus tard dans le séminaire. Virilité renvoie plus à une espèce d'idéal un peu assez transhistorique, du moins à l'échelle de l'Occident, de force musculaire et puissance sexuelle, en gros, c'est un peu ces deux trucs-là. Et là, pour le coup, bah, c'est à la fois c'est très net et c'est assez net. À la fois c'est très net parce qu'effectivement ça rentre dans les grandes oppositions du Dru et du Lys. Il y en a plein d'exemples qui viennent nous démontrer que, enfin, comme vous l'évoquiez juste avant, l'association du poil avec le, enfin, du poil facial avec le poil pubien. Mais dans le même temps, ce qui a présidé dans l'Occident, sur le long terme, c'est le rasage. Les périodes barbues sont extrêmement rares et courtes, surtout en. On a eu un petit siècle à la Renaissance, un demi-siècle à la fin du 19e siècle. Une période un peu confuse au Moyen-Âge où bon, les sources manquent et où surtout il y avait l'opposition entre masculinité guerrière qui porte la barbe et masculinité ecclésiale qui portait le rasage. Et, mais c'est rare et c'est plutôt le rasage. Donc, autant le poil est associé effectivement à cette image de bestialité, du coup de force brute, force naturelle, etc., autant la manière légitime d'incarner la masculinité, et donc d'occuper la position masculine, le pouvoir masculin, etc., et donc et toutes les positions qui vont avec et tous les attributs, c'est en fait par le rasage, et pas par le poil. Et l'autre truc, moi, que je trouve là, c'est qu'en fait, mes barbus, ils sont très peu virils. Ils aiment pas. Enfin, je leur pose la question, hein. je leur demande ce qu'ils en pensent, hein. En général en fin d'entretien. Enfin, les profils qu'ils ont, c'est plus. On est plutôt à gauche de l'espace social. Les hommes gays sont surreprésentés parmi les barbus. Et surtout, voilà, quand je pose la question à la fin sur la virilité, la plupart se montrent, dans les discours en tout cas, plutôt pro-féministes. Plutôt, pour un certain nombre d'entre eux, ils vont reprendre les discours assez classiques maintenant sur la critique de la masculinité toxique, ce genre de choses. Et même pour un certain nombre d'entre eux, revendiquer très fort la dimension féminine qu'il y a aux soins qu'ils accordent à leur barbe. Parce que ça, je suis bien d'accord avec vous, le retour de la barbe, il est pour la plupart des gens celui d'une barbe disciplinée et qui va en fait avec toute une consommation de produits esthétiques et de biens et de services esthétiques et d'entretien de la barbe. Et vraiment, beaucoup en fait retournent le stigmate de la consommation de cosmétiques pour un homme, c'est plutôt une question de genre, et en fait retournent le stigmate en disant non, c'est ma part de féminité, je l'assume, je la montre même. Quand mon entourage me dit tu portes la barbe, c'est pas un peu sale, il dit non, j'en prends soin, et je passe même plus de temps à la salle de bain que toi. Vraiment ce genre de discours-là. Du coup, c'est pour ça, la virilité. C'était un peu le truc que j'avais en tête au départ, et très rapidement je me dis en fait c'est pas, c'est presque marginal.
Et c'est intéressant parce que là vous parlez d'un groupe social qui est quand même classe moyenne.
Oui là c'est pour l'instant
mais en tout cas dans une société où on a toute cette problématique barbe ou voile concernant les musulmans chez nous sans problème, donc c'est très intéressant parce que d'un côté ceux qui représentent l'homme blanc. Évidemment, il n'y a pas que des blancs parmi les gens qui sont dépouillés, mais quand même, c'est la référence première. Lui,
comme une part de, pour exprimer sa féminité, et de l'autre côté, on attribue aux musulmans le fait, au contraire, et je pense que c'est vrai, d'affirmer au contraire une virilité face au vécu de colonisés. Du coup, bon, donc je trouve que c'est intéressant de les mettre.
C'est possible.
Mais en tout cas, vous pouvez éliminer le tout de l'idée, je suis sûr, mais ce n'est pas grave. Et par contre, d'avoir la co-présence de ces barbes qui n'ont pas la même signification, qui n'appartiennent pas au même groupe culturel, et qu'il y en a un qui est discriminé et l'autre qui est moins, et qui peut du coup revendiquer le fait d'être encore moins discriminant, c'est toute la problématique, quand même, à ce moment-là. Nous, on est les champions de la liberté des femmes, de l'émancipation, etc. On est des nudes, on est publicités, etc. Et puis, des autres qui protègent leurs femmes et leurs filles, parce que les occidentaux sont comme des prédateurs. Et il y a un dernier point que je fais juste une référence que je vous souviens, je travaille beaucoup depuis longtemps sur ça, c'est Volk qui a été la néothéie, mais pas c'est lui qui a comme le premier, qui est un anatomiste hollandais du 19e et qui a écrit un article qui est publié en français dans la revue française de psychanalyse et qui est tout à fait majeur parce qu'il est toujours cité dans les articles de la néothéie. Donc la néothéie, c'est l'idée que les hommes ont pu développer une intelligence qui sont nés avant terme et que du coup ils ont pu développer leur cerveau et du coup créer des prothèses qui leur permettent d'avoir un contrôle sur la nature. Donc c'est toujours présent, c'est très important. Mais donc dans son article, ce qui est très intéressant, il y a cette idée que au moment, donc le fait que du coup, comme on est né en tant qu'espèce avant terme, on peut développer des choses. Et le problème, c'est qu'à la puberté, les femmes tendent à rester glabres au niveau du visage et donc ne sont pas associées avec le lien qu'elles ont avec les espèces antérieures, donc primitives, donc bestiales, etc. Et au contraire, les garçons sont, qui recouvrent cet aspect hirsute, sont plus associés au côté carnassier et prédateur sexuel. Ça, c'est toi qui m'intéresse beaucoup au film. Éventuellement séries. Donc, dans les années 50, on s'est repris dans différentes choses que j'ai travaillé dans l'article sur le loup-garou, qui n'était pas nécessairement dans la première occurrence de littéraire du 19e siècle, c'est une femme, mais en l'occurrence, à partir des années 50, c'est How's Teenage World, le titre est approprié ça, et c'est effectivement sur cette distinction homme-femme, mais. Voilà, il y a cette idée que la puberté va permettre de recouvrir pour les garçons, plus particulièrement, certains traits qui avaient été masqués par cette histoire de néothéie. Voilà. Et dans les représentations actuelles et courantes, dans la fiction, c'est quelque chose qui est efficace.
Bien. Eh bien, écoutez, voilà, l'objet est assez infini, effectivement. Donc, merci d'avoir été là.